RFI, grand reportage.
RFI vous propose cet été d'écouter ou de réécouter ses meilleurs grands reportages. Aujourd'hui, les témoignages exceptionnels de soldats américains vétérans des guerres d'Irak et d'Afghanistan. Alors que l'armée américaine prépare la fin du retrait de ses troupes en Afghanistan, tous les sondages montrent que la fin du conflit est réclamée par l'opinion, comme était souhaitée la fin de la guerre en Irak. Pas moins de 2 400 000 soldats ont été déployés depuis 13 ans. L'administration doit s'occuper des retours à la vie civile qui ne se passe pas toujours sans douleur. Grand reportage signé Anne-Marie Capomatch.
Mon nom est Kim Ruoco. Je suis la veuve du major John Ruoco. Mon mari n'avait pas peur des zones de combat ou d'aller au feu, mais il avait peur de demander de l'aide.
John Ruoco s'est donné la mort le 7 février 2005. 8 mois après son retour d'Irak, il appartenait au corps d'élite des marines. Au cours de son dernier déploiement, le major Ruoco avait effectué 75 missions. Cette guerre d'Irak, conflit controversé et ouvert en 2003 sans l'aval des Nations Unies, est terminée. Le conflit en Afghanistan, déclaré avec la bénédiction de la communauté internationale, est lui aussi sur le point de s'achever. George Bush, qui avait été acclamé sur les ruines des tours jumelles le 14 septembre 2001, s'est adressé solennellement au Congrès une semaine plus tard.
Ce soir, les États-Unis adressent aux talibans la demande suivante. Ils doivent livrer les terroristes ou ils subiront le même sort. Notre guerre contre la terreur commence avec Al-Qaïda, mais elle ne se terminera pas là. Elle ne se terminera pas avant que tous les groupes terroristes ne soient débusqués et mis en échec.
Ce sont 2 400 000 Américains des quatre coins des États-Unis qui ont participé à un moment ou à un autre à ces guerres lointaines déclenchées après les attentats du 11 septembre, comme Matthew McDonald du Connecticut, David Dickerson d'Arkansas, Roman Skaskiv d'Ukraine ou John Ruoco du Massachusetts. Derrière le concept d'armée la plus puissante du monde, on découvre des humains parfois vulnérables qui ont accompli leur mission malgré les doutes qui les ont assaillis. À l'heure des réductions de budget et d'effectifs, du retrait des troupes et du bilan, le général Odierno, chef d'état-major des armées, en est conscient. L'administration fait face à un nouveau défi, réintégrer les vétérans dans la vie civile.
Nous faisons face à du stress dans les familles. C'est la première fois que nous avons une armée de volontaires. Vous devez comprendre ceci. Nous avons plus d'alcoolisme, nous avions déjà plus de divorces, mais là, nous avons une augmentation des cas de détresse mentale et d'appel à l'aide. C'est le coût de tout ça.
Divorce, stress, suicide, Paul Rykoff a créé l'association des vétérans d'Irak et d'Afghanistan.
Dans notre pays, 22 vétérans se suicident chaque jour. Nous devons prendre le taureau par les cornes, nous devons combattre le suicide.
Qu'est-ce qui peut se passer dans l'esprit d'un officier de retour à la vie civile pour qu'il se donne la mort? Qu'est-ce qui peut pousser un militaire respecté à perdre pied? Kim Ruoco a passé des jours à essayer de comprendre. Elle préside aujourd'hui une association qui travaille avec les vétérans blessés et avec leurs familles.
Le plus souvent, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il peut s'agir de blessures ou de maladies, comme un stress post-traumatique ou un traumatisme crânien, une dépression, qui s'ajoute à la perte du sentiment d'appartenance, d'identité.
Le major Ruoco, pilote décoré, a effectué 75 missions au cours de ce que l'on a appelé la deuxième bataille de Fallujah fin 2004. 300 000 déplacés, 1 200 morts parmi les insurgés et la population, 100 morts dans les troupes de la coalition selon les chiffres officiels. Les bombardements aériens avaient commencé en août. 8 mois plus tard, John Ruoco se donnait la mort. Il avait l'impression que personne ne pouvait comprendre ce qu'il avait vécu.
Dans l'armée, il y a un tabou qui interdit de demander de l'aide. Pour les femmes et les hommes dans l'armée, comme pour un pilote, par exemple, votre réputation est essentielle. La manière dont les gens vous perçoivent est tellement assimilée à votre identité, car on doit vous faire confiance au point de vous confier sa vie.
Toute question de réputation, en effet, de cette peur fondamentale d'apparaître faible. Comme le major Woko Matthew McDonald était en Irak, mais en tant qu'enseignant militaire, il a découvert une cruelle réalité.
J'étais jeune, j'avais 22 ans quand je suis arrivé, et il y avait des petits qui m'appelaient le vieux. Il y a beaucoup de combattants de 18-19 ans, mais vous savez, on est entraîné très jeune à être prêt à tout, parce qu'on peut devenir le chef. Ton sergent meurt à tes côtés, et en un instant, c'est ta responsabilité. Toute la responsabilité retombe sur tes épaules. Il ne s'agit pas d'être un héros ou d'avoir des médailles, il s'agit de sauver des vies, et on doit prendre toutes les responsabilités. On nous dit, tu t'adaptes et tu surmontes. On nous le dit encore et encore.
Une réalité violente sur le terrain et un retour qui a été un réel naufrage.
En fait, tu dois prouver que tu souffres, alors que tout le monde voit que tu souffres. Tu souffres. Ma mère disait, ce n'est pas mon fils, ce n'est plus toi. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu tout le temps que j'aurais pu passer avec ma fille, qui est tout pour moi. Mais je peux vivre avec ma mère. Ce n'est pas ce que j'avais en tête, bien sûr, mais c'est déjà ça.
Matthew a passé des semaines dans la solitude, enfermé dans sa cave, sans réussir à demander de l'aide. La première réaction, dit-il, est d'appliquer la maxime des marines. Si tu souffres, serre les dents.
On essaye de dire, ok, je peux le faire, je vais bien, je peux prendre en charge, je suis fort, je suis un soldat. Et on réalise, en tant qu'être humain, qu'on sanglote comme un bébé, derrière des portes closes. Et c'est si dur.
Aujourd'hui, Matthew s'exprime en écrivant des poèmes et en peignant. Il va mieux et travaille dans une association d'entraide pour les vétérans. Il n'a jamais pensé faire carrière dans l'armée. Matthew souhaitait simplement servir un idéal en allant enseigner en Irak. David Dickerson, au contraire, a passé 27 ans dans les rangs de l'armée américaine. Jeune vétéran de 48 ans, il vient de se retirer dans l'Arkansas après une première retraite en 99, mais les attentats du 11 septembre ont modifié le cours de son existence.
J'ai quitté le service actif dans la Navy en 1999. Je suis allé travailler dans l'environnement. Et puis nous avons eu les attaques du 11 septembre. Le 12 septembre 2001, j'étais au bureau de recrutement. Je me suis dit, l'heure est venue pour nous de défendre la nation.
David a participé à toutes les opérations américaines, le Koweït, les Balkans, l'Afghanistan, l'Irak. Après 27 ans, la réadaptation à la vie civile a été difficile. Son couple a explosé, un divorce qui vient aujourd'hui de se conclure par quelques mois de flottement et un remariage avec son épouse. C'est son dernier déploiement en Afghanistan qui a été le plus éprouvant. David a eu l'impression que les sacrifices consentis n'étaient pas compris par ses concitoyens.
J'étais sur la base de Bagram en Afghanistan et nous avons eu des soldats qui ont été tués. Et nous étions là au milieu de la nuit, il devait être 2h du matin, à regarder ces cercueils partir recouverts du drapeau. La souffrance m'a heurté de plein fouet. Ça m'a mis dans une telle colère. Je suis resté dans cet état pendant des années. On se souvient toujours de ces choses et personne autour de nous ne semble comprendre. Peu importe d'où l'on vient, peu importe ton passé. On revient en étant une personne différente.
L'histoire dira si les conflits en Irak et en Afghanistan étaient nécessaires et légitimes. L'un des objectifs a été atteint le 1er mai 2011.
Les États-Unis ont mené une opération au cours de laquelle Oussama Ben Laden a été tué. Il était le leader d'Al-Qaïda, un terroriste responsable de la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents.
Barack Obama annonce l'élimination d'Oussama Ben Laden, l'instigateur des attentats du 11 septembre. Et pour David, c'est à ce moment-là que la guerre aurait dû prendre fin.
Nous avions une mission, une seule mission en Afghanistan, et c'était d'anéantir Al-Qaïda, de capturer ou d'éliminer Oussama Ben Laden. J'ai perdu des amis là-bas, et j'en ai perdu après la mort d'Oussama Ben Laden. Si on me demande mon avis, le jour d'après l'élimination de la menace Ben Laden, nous aurions dû commencer à nous retirer d'Afghanistan.
L'amertume de David est palpable. Il faut dire que les guerres en territoire étranger sont toujours plus difficiles à mener, comme l'histoire en témoigne. Et pour l'armée américaine, l'Afghanistan et l'Irak n'ont pas été des guerres de libération attendues par la population, contrairement au discours de l'administration Bush. Roman a quitté les États-Unis pour s'établir en Ukraine, la terre de ses ancêtres. Avec un vrai talent littéraire, il a publié plusieurs nouvelles et se présente comme un écrivain entrepreneur, mais certainement pas un héros. Roman a appris de la distance avec ses missions, armé d'une plus grande sagesse et d'un regard critique.
Il y avait des gens qui nous aimaient. Ils sortaient dans les rues pour nous acclamer quand nous passions. C'était un tableau étrange. Je ne dis pas que les États-Unis auraient dû intervenir, mais les gens haïssaient les talibans. Donc nous étions les bienvenus, comme des libérateurs. Et bien sûr, dans d'autres endroits, ils essayaient de nous tuer. Quelle que soit la thèse, on trouve des preuves pour bâtir sa théorie.
La différence entre le discours politique et la réalité du terrain est réelle. Mais quel que soit le jugement sur la légitimité de ces guerres, les militaires sur le terrain accomplissent un devoir pour lequel ils se sont engagés, des missions pour lesquelles ils ne sont pas toujours préparés.
Ma mission était de communiquer avec les familles de ceux que nous avions tués. Nous avons eu quelques incidents. Par exemple, des soldats étaient devant une maison, quelqu'un est sorti et a commencé à tirer en l'air, et les soldats ont réagi comme ils avaient été entraînés à le faire, malheureusement. J'avais un vrai don pour communiquer avec les gens du coin, et donc c'était à moi de maintenir le contact avec les familles. Nous faisions des petits gestes, comme par exemple payer les funérailles, ou alors nous demandions au conseil des anciens ce qu'il fallait faire pour aider la veuve. Au sein de mon bataillon, le 82e bataillon aéroporté, nous mettions un point d'honneur à le faire. Nous faisions le maximum pour laisser une bonne impression.
Roman a aimé l'Afghanistan. Il a emporté avec lui en Ukraine le souvenir de rencontres qu'il raconte dans ses écrits. Et comme pour beaucoup de ses pairs, la dernière mission a été la plus éprouvante.
Ma mission en Afghanistan en 2008 était de distribuer de l'argent. En 8 mois, nous avons dépensé 90 millions de dollars dans la région de Kunar en Afghanistan. Nous avons construit des routes, des écoles, des ponts, des cliniques. C'était une forme de corruption gigantesque pour que la population nous soutienne et soutienne le gouvernement que nous avions mis en place. Donc, mon troisième voyage, le dernier dans la région de Kunar, a été le plus dangereux. J'ai même refusé des missions dans des zones à risque. Et si j'ai fait la différence en Afghanistan, c'est peut-être en préservant la vie de mes hommes.
Le retrait d'Afghanistan va intervenir dans les mois qui viennent. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ce pays. Lors du bilan pour les États-Unis et pour les pays qui ont participé au conflit, si Roman ne met pas en doute la légitimité de l'objectif de départ, il est persuadé que le retrait est salutaire pour les Afghans.
Je pense que nous avons fait plus de mal que de bien. Ce n'est pas tout à fait clair. Mais si nous voulons les aider, nous devons acheter leurs pierres précieuses, par exemple. Dans ce pays, les gens les plus intelligents ne travaillaient pas pour l'Afghanistan. Ils travaillaient pour les Nations Unies ou alors pour l'armée américaine comme traducteurs. C'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence est que lorsque nous étions là, les gens se sont battus entre eux. Ils ont dû choisir un camp. Ils devaient se battre contre l'armée ou se battre contre les insurgés. Lorsque nous partirons, ils vont tous redevenir des Afghans et il me semble que cela aura un effet pacificateur.
Le temps a passé, la guerre en Afghanistan est le plus long conflit de l'histoire des États-Unis et les Américains sont là de ces guerres. Lorraine est toute jeune, elle a quitté son Kansas natal pour aller en Irak où elle a passé un an. Avec la lourde responsabilité du vol des drones de surveillance, la sécurité de ses pairs dépendait de l'acuité de son travail. Aujourd'hui impliquée dans l'association des vétérans d'Irak et d'Afghanistan, elle travaille sur les conditions du retour qui ont évolué, dit-elle, depuis le Vietnam.
Je pense que notre pays a beaucoup progressé dans l'accueil des vétérans qui rentrent. C'est mieux que pour les générations précédentes. Si on pense à la génération du Vietnam, ils n'étaient pas du tout les bienvenus en rentrant à la maison. Le chemin parcouru a été long. Je pense que c'est beaucoup mieux, par exemple, avec la loi passée après le 11 septembre pour les anciens combattants. Mais je pense aussi que les soins pour tout ce qui est mental des vétérans pourraient être améliorés.
Can certainly be done better. I came by today
to see you. Pour Kim, enfin, toujours marqué par le suicide de son époux, la préoccupation reste le retour et la reconnaissance de la tâche accomplie par les vétérans, pour la sécurité de ceux qui sont restés au pays.
Ils voulaient s'engager dans l'armée. Ils sont devenus militaires et c'est une part importante de leur identité. C'est maintenant le tour des 99% de la population qui n'a pas servi dans les rangs de l'armée. C'est à leur tour de servir leur pays en prenant soin des vétérans.
Grand reportage sur le retour des vétérans d'Irak et d'Afghanistan. Anne-Marie Capomaccio, réalisation Eva Moshinsky.
Retrouvez tout au long de l'été la sélection musicale de RFI. Aujourd'hui, Sarr, que l'on verra demain, vendredi 25 juillet, à Sumen, dans le Gard, dans le cadre du festival Les Trans-Sévenols. Extrait de l'album éponyme Sarr, le titre Urki Naona.
Sur le web,